7h32.
Tu te commences à perdre la mémoire, Jeff?
Je pense que oui.
C'est toi Alzheimer la mémoire précoce. De ce show-là. C'est toi la mémoire. Hey, c'est moins 8 degrés sur Québec, il neige, neige à plein ciel. Est-ce que ça va être ça toute la journée? On nous parle de 5 à 10 cm annoncés. Donc, ce sera ça. Ce soir, 2 à 4 cm de neige qui devrait s'ajouter avec un maximum de moins 2 pour aujourd'hui, un maximum de moins 11. Donc, ce sera pas trop froid, sauf qu'actuellement, avec le vent, c'est autour de moins 15. Donc, ça devrait être moins pire dans les prochaines heures. Demain, vendredi, déjà... Début de la fin de semaine, dégagement, quoi, c'est quelques nuages en matinée, 40% de probabilité d'averse, de neige en après-midi. Ciel dégagé par la suite, en soirée, ciel dégagé, minimum de moins 23, maximum de moins 10 degrés. Samedi, c'est ensoleillé, maximum de moins 18. Et dimanche, ce sera de la neige intermittente avec un maximum de moins 16.
C'est le bordel sur les routes, tellement qu'on ferme le petit parc, la 169, là, vers Héberville. C'est fermé en raison des conditions météo. S'il y en a qui ont à se rendre dans le coin du lac Saint-Jean, ben, c'est une information qui est très pertinente. Puis sinon, c'est beaucoup de rouge foncé sur la carte là, dans le secteur de Québec. Quelques incidents, il y a des sorties de route par endroit aussi. Capitale-Ouest, c'est ben jamé entre Seigneurial et... Ça va au-delà de Laurentienne, ça va jusqu'à Robert Bourassa, c'est bien au rouge. D'ailleurs, Robert Bourassa, direction sud, là, vers Wilfrid Hamel, c'est bien bouché aussi. Plus haut, comme d'habitude, Robert Bourassa vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est au rouge. Le boulevard Saint-Jacques, direction sud, vers l'avenue Chauveau, gros ralentissement qui habituellement n'est pas nécessairement habituel. Arc 4 Sud, un peu après Industriel, jusqu'à Chauveau-Ouest, comme d'habitude, c'est jamé. Quand tu roules vers Shannon, dans le coin de l'entrée de la base militaire, là aussi, c'est au rouge. Laurentienne, direction sud, jusqu'à peu près le boulevard Louis XIV. Et à partir de très haut, quasiment rue Jacques-Bédard, là, c'est jamé. La 40 Est entre Duplessis et Henri IV au ralenti. Et vraiment, tout ce qui est secteur des ponts, tout ce qui se rend vers le secteur des ponts pour passer de la rive sud à la rive nord. Le bordel est pogné, là aussi, particulièrement quand tu veux arriver par la 20 Ouest. À partir de Chemin des Îles, El Bouchon y commence.
Merci beaucoup. 7h34, Donald Trump hier qui faisait un discours et il a annoncé ne pas vouloir s'approprier le Groenland par la force, ce qui fait en sorte que j'ai été directement sur mes trucs de bourse, Jeff.
Oui.
Et très rapidement, on a réagi comme positif, puis mes actions ont remonté. Je me dis, mais est-ce que tout ça n'était pas planifié?
Oui, donc si tu avais été un ami de Donald Trump, tu aurais peut-être fait de l'argent, ça, t'en aimes dire?
J'aurais peut-être fait de l'argent, là.
Et là, on le met au conditionnel.
Oui. Je ne sais pas si dans les médias, c'est le même personnage que dans l'intimité, mais si dans l'intimité, il fait le contraire en disant, inquiétez-vous pas, là. Là, je lui dis que je vais prendre le Groenland par la c'est force, ça. Mais à toute fin, je vais dire, non, il va
dans
y avoir des négociations.
Dans le fond, c'est pour ça que je le fais.
Ben, tu sais, moi, j'aurais accès à de l'information primordiale
privilégié.
Pour des placements
délit
à la
d'initié, délit mon Yannick.
Je pourrais avoir un délit d'initié.
Ben oui.
J'aimerais ça être ami avec Donald Trump pour faire un peu plus d'argent. Mais j'imagine qu'il n'y a personne autour de Donald Trump qui transite autour
ben
de
non,
lui
voyons
pour
non,
en faire. Donc, Donald Trump renonce à la force pour s'approprier le Groenland. Et il y aurait un deal avec l'OTAN. On a bien hâte de savoir c'est quoi ce fameux deal. Mais là, les gens du Groenland ne comprennent absolument rien de ce qui se passe. On en jase avec Luc Laliberté, qui est chroniqueur en politique américaine. Salut, Luc!
Oui, bonjour!
Quel soulagement d'entendre l'homme le plus puissant de la planète dire « Savez-vous quoi? Le Groenland, je le prendrai pas de force! »
Écoute, ça, c'était... il a dit énormément de choses pendant une longue allocution, un long discours, M. Trump. Mais oui, un des volets, parce qu'il a dit beaucoup d'autres choses, mais un des volets, c'est « Je ne pensais pas, je n'utiliserai pas la force. » Je ne pensais pas le faire, je n'ai pas besoin de le faire et je ne le ferai pas. Dans la même journée, après avoir eu un discours où clairement il voulait pas se rapprocher des alliés au sens large, et pas seulement que pour le Groenland, mais dans la même journée, il semblait s'être calmé ou avoir modifié le ton et on nous a confirmé qu'il y avait ce canevas d'entente. C'est encore flou, un canevas d'entente. Ce qui émane des discussions, ce qu'on semble nous dire, c'est finalement, avec le temps, on va investir plus dans la sécurité, dans la protection donc de l'ensemble des pays de l'OTAN, mais en investissant en particulier au Groenland. Est-ce que c'est la question qu'on peut se poser légitimement, c'est Est-ce que c'est une autre application de The Art of the Deal? Hein, le fameux bouquin où la recette de Donald Trump, recette qu'il n'avait pas écrite en passant. On l'a su par la suite de l'auteur réel du livre que finalement, comme pour bien d'autres choses, on avait mis que le nom Trump sur le livre. Cette approche-là de Donald Trump, elle consiste en quoi? C'est sortir les gros bras, en dire « je suis le plus fort, vous avez pas le choix ». Mais c'est le bully ou l'intimidateur dans la cour d'école. Il vous pousse, il prend l'argent de votre lunch, puis il prend votre lunch tant et aussi longtemps que vous allez accepter de céder. Est-ce que ce n'est que ça? Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai hâte d'avoir des informations supplémentaires. Parce qu'il y avait déjà des plans pour le Groenland avant que Trump nous lance dans tout ce cirque-là. Il y avait déjà des plans pour qu'on améliore la sécurité puis que les Américains puissent progresser en fonction de la protection d'intérêts géostratégiques. Donc, est-ce que tout le spectacle de Davos, ce n'était que pour quelque chose qu'il a déjà? Moi, je pense que c'est plus complexe que ça. Je pense que Donald Trump a compris, à la lumière de la réaction des Européens, cette fois-là, il semblait plus ferme, les Européens, qu'avant, à la lumière de la réaction du Canada en partie, parce que c'est un appel hein, à l'union des puissances secondaires. C'est comme ça que le premier ministre canadien, Mark Carney, l'a formulé. C'est non seulement les pressions de l'Europe, le Canada qui les invite à serrer les coudes, à la maison, aux États-Unis, c'était très clair que même pour des partisans de Donald Trump, sortir, et pour les élus républicains, sortir l'armée pour le Groenland ou prendre le Groenland de force, avec l'armée ou sans l'armée, c'était trop. On était allé trop loin. Donc, est-ce que c'est the art of the deal? Je vous pousse pour obtenir un petit gain, celui que vous me laisserez. Ou de l'autre côté, j'ai vraiment effectué un recul parce que je me rends compte que je suis allé trop loin. On a donc une forme d'apaisement ce matin. La plupart des gens sont satisfaits. Mais c'est encore un peu mystérieux pourquoi Trump a effectué ce recul-là. Sinon, j'ai noté comme vous, hein, c'était. D'ailleurs, je commentais la chose en direct hier, mais j'avais des écrans autour de moi. Et je trouvais intéressant que CNN nous montre à la fois le discours de Trump et les cotes à la bourse. Et on a remarqué tout le monde le mouvement assez brusque. Quand le jeu s'est calmé, on a vu les courbes et les chiffres repartir vers le haut, les valeurs reprendre de la vigueur. Donc, on a ça aussi. Et je vous entendais jaser de manière informelle, presque en souriant, mais ce ne serait pas la première fois, d'ailleurs. Il faut se rappeler que ce n'est pas la première fois que si stratagème il y a, je dis si parce qu'on n'a pas de preuves. Il n'y a personne qui est dans la tête de Donald Trump. Il n'y a personne qui, si c'est vrai, a cédé puis a confessé ça. Ça va être très difficile à prouver. Mais c'est pas la première fois, s'il y a un stratagème, que Trump l'utilise. On l'a vu avec la question des tarifs, par exemple. Quand il y a eu ce fameux jour de la libération, ouais. Il y a des gens qui ont fait un gros coup d'argent entre la première annonce et la version adoucie par la suite. Il y a des gens qui s'en sont mis plein les poches.
Ah, puis tu sais que penser de l'épisode avec Elon Musk, les actions
voilà.
Les actions de l'entreprise d'Elon Musk qui descendaient et qui descendaient. Puis moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est un show qu'on est en train d'avoir? Puis là, je regardais mes actions, puis là, je me disais, mais Tesla, ça descend. Je suis aussi bien d'en acheter. Fait que là, j'achetais, ça descendait, j'achetais, ça descendait, j'achetais, ça descendait, j'achetais en me disant, à un moment donné, Elon Musk va bien chicaner avec le gros orange, puis il va sacrer son camp. C'est effectivement ce qui est arrivé. Et là, tout d'un coup, les actions de Tesla ont remonté. Mais, ben bref, il peut-il y avoir des délits d'initiés, ça, on le sait pas. Est-ce qu'on va le savoir un jour?
C'est que ça va être terriblement difficile à prouver, mais combien de personnes ont eu exactement la même discussion que vous aviez quand je suis venu vous rejoindre tout à l'heure? C'est impressionnant. Ça en a toutes les apparences et toutes les allures à tout le monde.
Juste avant de parler du ICE et des Clinton, puis du dossier Epstein, comment Donald Trump peut négocier le Groenland avec l'OTAN sans négocier avec les gens du Groenland puis les gens du Danemark? Je comprends pas, Luc. C'est comme une incompréhension.
Ouais.
Normalement, il devrait jaser avec le Danemark puis les gens du Groenland, mais qu'est-ce que l'OTAN vient faire? T'sais, si jamais il y a des choses qu'on apprend, comme quoi l'OTAN dit, ben, savez-vous quoi, il y a des terres dans le secteur du Groenland où tu vas avoir accès, ce serait un non-sens?
C'est-à-dire que tant et aussi longtemps que le Danemark est dans l'OTAN, le pays est dans l'OTAN, et tant aussi longtemps que le responsable de l'OTAN s'exprime au nom de tous les membres, on sous-entend que le Danemark a été consulté. Parce que ce n'est pas de remettre en question la souveraineté du Danemark, si on utilise des installations militaires américaines qui sont déjà là. Moi, l'argument stratégique, je trouvais plus ou moins bon dans ce que Donald Trump annonçait comme négociation, parce que les Américains sont déjà sur le territoire et parce qu'ils pourraient, s'ils le désirent, ajouter encore plus de muscles ou encore plus de technologie ou d'influence aux installations qui sont déjà sur place. Donc, je comprendrais que quelqu'un qui habite le Groenland, ce matin, soit un peu étourdi, ou se dit, un peu, on est rendu où, là? Il voulait nous acheter, on pensait qu'on devait nous offrir de l'argent. Il avait même menacé d'envoyer l'armée pour prendre le territoire. Puis ce matin, finalement, on se retrouve là où on était avant que tout ça commence, c'est-à-dire que les Américains ont déjà une présence au Groenland, puis qu'on va tout simplement miser plus sur la sécurité géostratégique. Donc, on pourrait les comprendre d'être étourdis, mais il n'y a rien dans ce que j'entends qui est illégitime. C'est-à-dire qu'on ne contourne pas le Danemark ou le Groenland. Le Groenland pourrait toujours poser plus de questions, mais parce qu'ils ont un statut autonome. Là, on dit que c'est rattaché au Danemark, mais ils ont un statut autonome. Ils ont le droit, bien sûr, d'être consultés ou de poser des questions. Mais il n'y a rien dans ce qu'on fait actuellement qui me semble illégitime, tant et aussi longtemps qu'on nous dit qu'on a consulté au sein de l'OTAN et que le Danemark est consulté en la matière.
Je comprends. Le ICE, la police de Donald Trump, qu'on appelle, a été mise en place par Bush à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Ouais. Le ICE s'est transformé. Là, on se rend compte qu'il y a des agents de la police de l'immigration qui sont masqués, qui sont pratiquement en tenue de combat, avec des casques de combat, comme les soldats en mission, qui courent directement dans la rue après des gens qui n'ont pas de l'air trop blanc. Je trouve ça hallucinant. Les images sont vraiment laides. Malheureusement, il y a une dame qui a été tuée. Il y aura probablement justice là, lorsque tout ce beau monde-là passeront en justice. Puis on saura qui est coupable et qui ne l'est pas. Mais là, le ICE, cette police-là qui fait tant jaser aux États-Unis, veut rentrer dans les maisons des Américains. C'est un step supplémentaire.
Voilà. Puis la raison pour laquelle on demande ça, et il y a peut-être des gens qui vont trouver que c'est parfaitement légitime. Moi, j'ai des doutes au regard de ce que tu viens de mentionner. C'est le comportement du ICE jusqu'à maintenant. Mais la raison pour laquelle on faisait ça, c'est quand il y avait des immigrants. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des villes sanctuaires, il y a des endroits où on disait, nous, les immigrants, on va les protéger. Hein? On va attendre, on va leur offrir finalement l'hébergement ou un accueil en attendant qu'ils régularisent leur situation. Mais un des conseils qu'on leur donnait, c'est, ben, enfermez-vous dans les maisons. Puis quand on cogne à la porte, n'ouvrez pas. Donc, ce que ICE a demandé, qu'on n'a pas le droit de faire, sans justement une réponse favorable à cette demande, ben, c'est de défoncer une porte d'entrée. Normalement, il fallait un mandat de perquisition, un mandat en bonne et due forme pour entrer. Ce qu'on ferait, c'est d'élargir ou d'assouplir pour ICE les règles qui empêchaient les agents du service d'entrer dans les maisons. Ce serait inédit ou presque que de leur permettre ça, même si derrière la porte, il y avait quelqu'un qui légitimement donc est en situation d'irrégularité puis qu'on aurait des inquiétudes. C'est, et je fais pas de jeu de mots déplacé, mais c'est vraiment ouvrir la porte à beaucoup de choses si on permet à ICE de faire ça. Parce qu'en même temps, ou presque en même temps qu'on a cette demande, il y a un tribunal qui a rappelé à ICE, tout ce à quoi vous n'avez pas le droit de recourir. Voici, il y a quand même une charte des droits aux États-Unis, il y a quand même des amendements, il y a un cadre légal, puis nous, on commence à s'inquiéter du fait que vous ne le respectez pas. Voici tout ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, au moment même où on les rappelle à l'ordre parce qu'il y a eu un abus, il y a eu des abus, eux demandent à avoir plus de pouvoir. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va leur permettre de procéder. Parce que, oui, il y a des immigrants en situation illégale, mais en même temps, est-ce que chasser les illégaux permet de défier ou d'entraver les libertés individuelles de tout le monde? C'est ça qui est la question de fond pour Minneapolis ou pour le Minnesota en général. On a vu hier, il y a des images qui ont circulé d'un petit garçon à la peau plus foncée qui rentrait tout simplement chez lui en fin de journée, puis on l'arrête. Sans question, sans interrogation, c'est « viens-t'en, on t'arrête ». Et là, on dit, si on en est rendu à s'en prendre aux enfants ou aux jeunes ados, c'est quoi la prochaine étape? Puis on n'a toujours pas fait la lumière sur l'histoire de Renee Good, la femme à laquelle tu référais, qui était abattue dans sa voiture. Une femme à qui on a refusé les premiers soins. Là, il y a un rapport qui est sorti puis qui dit ben elle a survécu pendant au moins 8 minutes. On est sûr que son cœur battait encore 8 minutes après les coups de feu, qu'il y a un médecin qui a voulu approcher de la scène pour l'aider. On lui a refusé l'accès, que les agents ICE sont formés en réanimation et qu'on n'a même pas essayé non plus de la réanimer. Donc, je suis pas en train de vous dévoiler le résultat de l'enquête qui est en cours supposément sur ce dossier-là. Je dis juste, il y a beaucoup de choses dans la balance. On va très, très, très loin. Et là, ICE demande à avoir plus de pouvoir.
Mais pourquoi on leur permet de se masquer de cette façon-là, d'avoir des casques militaires, d'avoir des tenues de militaires, puis on leur permet de courir après le monde dans la rue, tu sais? Puis je te parlais de mon expérience la semaine dernière, ou là 2 semaines, là,
ouais,
où j'ai vu de la police d'immigration arriver dans un restaurant, puis ils ont super bien agi, là. Ils ont rentré dans le restaurant calmement, ils étaient bien identifiés, ils ont été dans la cuisine, puis tu sais, je ne sais même pas s'ils ont fait des arrestations, mais s'ils ont fait des arrestations, ça s'est fait par la porte arrière. Du restaurant. Puis ils ont été très discrets. Là, de voir ça à travers les médias, tu sais, des policiers en ice qui courent habillés un peu n'importe comment, puis ils veulent pas se faire reconnaître. Tu te dis, mais on est rendu où, là? Tu sais, ces gars-là ne veulent même pas se faire identifier, là.
Je vais juste inverser ta formulation. C'est pas qu'on leur permet de faire ça, c'est qu'on leur a jamais interdit. Donc, ils ne sont en contravention de rien. Maintenant, la plupart des forces de l'ordre, la plupart des spécialistes, le FBI lui-même a dit « Vous ne devriez pas faire ça. On vous suggère, on vous recommande de travailler à visage découvert. » Mais c'est tout simplement que dans la réglementation, pour ICE, il n'y a rien qui dit « Vous devez travailler à visage découvert. » Donc, ça prendrait un changement. Et c'est là où on voit, entre autres, que l'administration Trump, quand elle utilise ICE, ce qui a changé, c'est majeur, c'est ton expérience personnelle, mais multipliée par le nombre de personnes qui sont atteintes par ICE présentement. C'est clairement, il y a un volet spectacle à ça. Il y a un volet utilisation de la force, mais il faut que ça se sache. Hein? C'est la méthode forte multipliée par ou puissance 10. Donc, c'est la méthode forte. C'est voici ce qui va vous arriver, puis voici jusqu'où nous sommes prêts à aller. Le problème, c'est que c'est pas juste une image. C'est pas qu'on fasse peur pour dire aux immigrants illégaux, vous allez... D'ailleurs, l'administration Trump l'avait déjà dit, partez tout de suite avant qu'on vous fasse la chasse, parce que sinon, on arrive. Et là, on est dans le volet, on arrive. Donc, si on est contre l'immigration illégale, la plupart des gens, on l'est, on dit, voilà, ils ont juste à se soumettre. Le problème n'est pas là. Le problème est les moyens qu'on prend pour aller chercher des illégaux. D'abord, les illégaux ont malgré tout certains droits, c'est toute la population qui se trouve à être finalement, d'une certaine manière, en otage dans cette situation-là. Et les habitants du Minnesota, les habitants de Minneapolis sont pas contents et ils le répètent. On n'aime pas qu'ils utilisent des moyens qui sont disproportionnés, de la violence, hein, du muscle, mais finalement qu'on paie le prix nous aussi pour ça. Donc, et là, c'est plus grave. Et là, il y a une prise pour les opposants de dire... Si des Américains, en bonne et due forme, qui ont tous leurs papiers, qui sont nés aux États-Unis, se retrouvent lésés dans leurs droits ou peuvent même être arrêtés, ne serait-ce que temporairement, parce qu'ICE se permet tout ça, là, on est sorti du cadre légal ou du cadre habituel, à tout le moins que dans un pays qui est démocratique.
Luc, dernier sujet, c'est l'affaire Jeffrey Epstein. Il y a une procédure contre Bill et Hillary Clinton pour entrave au Congrès, les deux ont refusé, justement, de se présenter devant le Congrès pour répondre à des questions. Comment tu vois ça? Est-ce un gros jeu politique où les Clinton auraient dû se présenter?
Les deux, c'est assurément un très, très gros jeu politique. Puis les démocrates feraient la même chose. On l'a vu avec la procédure de destitution contre Donald Trump.
Mm-hmm.
Je pense que le fond contre Donald Trump était sérieux. Mais on n'allait pas rater l'occasion d'heures de diffusion en direct où on allait voir passer les membres d'administration ou des témoins. Donc, dans les deux cas, à partir du moment où ça se passe au Congrès, on peut pas nier qu'il va y avoir une forme ou une autre de récupération politique. Maintenant, ce qui s'est passé hier, c'est que c'est un comité de la Chambre qui a voté à forte majorité. Il y a des démocrates qui ont appuyé les républicains et qui ont dit la réponse de Bill et Hillary Clinton à notre invitation à venir témoigner, c'est pas correct. Donc, Bill et Hillary Clinton, leurs avocats, ont dit, écoutez, on n'a pas besoin de se présenter là. L'information qu'on a, on a même offert de vous la partager par écrit. Et là où on voit un peu le jeu politique, c'est que Bill Clinton, d'abord, est-ce qu'on a déjà forcé des présidents à aller témoigner comme ça? Bonne chance dans vos recherches historiques pour aller trouver des détails comme ceux-là. Mais Bill et Hillary Clinton ont dit, écoutez, nous, on offre de témoigner par écrit. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît d'Epstein, on va vous l'envoyer par écrit. Et là, on a dit non, on veut aller plus loin que ça. Cette affaire-là est importante. Et c'est vrai qu'elle est importante. Mais donc, hier, il y a un comité qui a dit, nous, finalement, on propose de vous accuser. Vous aviez défié la loi, vous résistez. Donc, et le Congrès a d'immenses pouvoirs au plan légal. On l'oublie souvent. Si on vous demande d'aller témoigner, vous allez témoigner. Maintenant, avant qu'on aille plus loin, il faut absolument que la Chambre au complet vote là-dessus. Donc, est-ce que les démocrates vont tenir le cap? Parce que Hakeem Jeffries, qui est le meneur des démocrates à la Chambre des représentants, hier, il a été défié dans son autorité. Lui ne voulait pas qu'on vote avec les républicains. Et il y a beaucoup de démocrates sur le comité qui ont dit « on vote malgré tout avec les républicains ». Donc, ça divise les démocrates, à l'évidence, cette question-là. Quand on va ramener ça sur le plancher de toute la Chambre, c'est l'autre étape. Est-ce qu'on va formellement les accuser, Bill et Hillary Clinton? Et là, on risque d'avoir un bras de fer politique intéressant, mais un autre spectacle. Si la Chambre votait, Bill et Hillary Clinton risquent, en théorie, on va voir si on va le faire dans la pratique, deux choses. Ils peuvent se retrouver derrière les barreaux, ils peuvent être détenus, et on peut leur imposer une amende. Ça pourrait aller de mémoire jusqu'à quelque chose comme 100 000 $. Ils sont riches, les Clinton, ils pourront se permettre ça, mais assurément, on ne veut pas se délester de 200 000 $ au total du couple. Donc, c'est en théorie la situation devant laquelle on se trouve présentement. En même temps, dans le dossier Epstein, les démocrates ne peuvent pas exiger qu'on rende des comptes, que tout le monde rende des comptes, puis que tout le monde soit, qu'on soit tous égaux devant de potentielles accusations dans nos relations avec Epstein. On parle des deux côtés de la bouche quand on dit que les deux Clinton ne doivent pas témoigner.
Ouais, c'est là que les Clinton mettent les démocrates dans le trouble.
Et ça fait longtemps que je dis que Bill Clinton, autant Bill Clinton a été un président près des gens, sa vie personnelle, puis certaines de ses transactions l'ont entraîné sur des terrains où on aurait nettement préféré qu'il n'aille pas. Et il est devenu, à certains égards, quand on regarde les votes aux élections, un boulet. Moi, je pense qu'une des raisons, c'est pas la raison, mais une des raisons de la défaite d'Hillary Clinton, c'était d'être l'épouse de Bill Clinton. Quand on accuse Donald Trump dans certains dossiers, puis qu'on constate que Bill Clinton a fait des choses qui sont similaires à Donald Trump, disons que les accusations perdent du punch pas mal. Quand on accuse Donald Trump d'avoir, imaginons, profité de jeunes femmes ou de s'être, au plan de ses relations interpersonnelles, mal comporté puis d'avoir frayé avec Epstein, ben écoute, c'est le bilan de Bill Clinton aussi qu'on est en train de tracer. Donc, il est devenu un poids.
En se rappelant que sous serment, Bill Clinton avait dit ne jamais avoir eu d'aventure extra-conjugale avec Monica Lewinsky et en disant que la fellation n'était pas une relation sexuelle. Mm-hmm. Donc, il n'avait pas menti.
Yannick, autre première. Tu sais, quand on fait l'histoire américaine, on va partout. C'est le seul président de mémoire dont on a décrit l'organe reproducteur devant un tribunal.
C'est un drôle de spectacle.
Et
merci.
C'était... qui cherche à aller voir le dossier de Paula Jones qui poursuivait Bill Clinton et pour montrer qu'il avait bel et bien baissé son pantalon en lui demandant de poser un geste sexuel que je ne décrirai pas ici, elle avait dû décrire que le membre reproducteur du président avait des particularités. Donc, voilà, on va partout en histoire, incluant là.
Luc Laliberté, merci.
Salut.
Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine. Ça, c'était weird. Hein? Il avait dit sous serment n'avoir jamais eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky. Et là, on a joué un peu avec les mots en disant « Ouais, il y a eu une fellation. Une fellation, c'est pas une relation sexuelle. Donc, il a pas menti. Hein? » Hein? T'essaieras de faire passer ça à ta femme.
Ouais, ça ne marchera pas.
Chérie!
J'essaierai même pas de te faire passer, je ne le ferai pas
Cassandra
tout simplement.
Cassandra m'a fait une pipe, mais je ne t'étais pas trompé.
Parce que la fellation n'est pas un acte sexuel, chérie.
Voilà. Max!
C'est le bordel sur les routes. Commencez par vous dire que le petit parc est fermé là, pour les gens qui peut-être veulent se faire un long week-end là, dans le coin du lac Saint-Jean. Vous ne pourrez pas passer par le petit parc. Les conditions météo sont pas assez bonnes. Capitale Ouest, hauteur boulevard de l'Ormière, la voie de droite qui est bloquée en raison d'une panne. La 40 ouest, hauteur de la route Jean-Gauvin, la voie de gauche qui est bloquée en raison d'une sortie de route. Les services d'urgence qui sont sur place, ça cause des problèmes. Mais ouais, je vais faire vite, là. Partout, c'est au rouge à Québec et sur la rive sud.
Moins 8 degrés avec le refroidissement éolien, c'est une température ressentie de moins 14. C'est des averses de neige parfois fortes, c'est des bourrasques de vent. Donc, à certains endroits, la visibilité est réduite. 5 à 10 cm de neige annoncée aujourd'hui, 2 à 4 cm annoncés pour ce soir. Donc, salutations à toutes les équipes de déneigement qui s'affairent à travailler extrêmement fort. 7,57, Denis Gravel s'en vient.
Le Pit Stop avec Denis Gravel, présenté par Identité Québec.